de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. Biden fait pression sur le premier ministre britannique pour qu'il ne renie pas le protocole d'Irlande du Nord. Les inondations au Sri Lanka font 17 morts. La Thaïlande commence son effort tant attendu de vaccination contre la COVID-19. Le Maroc rouvre le trafic international de passagers à partir du 15 juin. Je termine de présenter maintenant le journal complet. Le président américain Joe Biden avertira le premier ministre britannique Boris Johnson de ne pas renier l'accord sur Brexit, le protocole d'Irlande du Nord, lorsqu'ils se rencontreront pour la première fois lors du sommet du G7 de cette semaine. Cela a été transmis lundi dans un rapport du Time citant plusieurs sources anonymes. Maintenir la paix fragile en Irlande du Nord sans fournir une porte dérobée à la Grande-Bretagne pour entrer sur le marché de l'Union européenne via la frontière terrestre anglo-irlandaise de 500 km est l'une des questions les plus difficiles dans les pourparlers sur le divorce de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne. Cette question difficile a finalement été résolue en partie par le protocole de l'Irlande du Nord qui était l'un des résultats de l'accord sur le Brexit. Les fortes pluies qui ont frappé le Sri Lanka ont déclenché des inondations et des glissements de terre qui ont fait au moins 17 morts et des milliers contraints de fuir selon les autorités locales lundi. Après des pluies torrentielles, les rivières des plaines du sud et de l'ouest du pays ont débordé au cours du week-end, inondant les basses terres et forçant des milliers de personnes à se rendre dans les centres d'aide. Plus de 270 000 personnes ont été touchées par les inondations et environ 100 000 bâtiments ont été endommagés. La Thaïlande a commencé lundi son effort de vaccination de masse, tant attendu alors que le pays lutte contre la troisième et la pire vague de l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement thaïlandais a l'intention d'administrer 6 millions de doses d'AstraZeneca fabriquées localement et de vaccins Sinovac importés ce mois-ci dans l'espoir d'épaisser les inquiétudes concernant la lenteur du déploiement de la vaccination et les pénuries d'approvisionnement. Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha, dans des commentaires télévisés après sa visite dans un centre de vaccination à Bangkok, a déclaré que le gouvernement veillerait à ce que tout le monde soit vacciné. Le gouvernement prévoit de vacciner 70% de la population thaïlandaise, de plus de 66 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Jusqu'à présent, 2,8 millions de personnes considérées comme les plus vulnérables, y compris les travailleurs de la santé et des transports de première ligne, ont reçu la première dose de vaccin COVID. Le Maroc rouvrira ses aéroports et ses ports au trafic international de passagers à partir du 15 juin, tant pour ses propres citoyens que pour les ressortissants étrangers, selon le ministère marocain des Affaires étrangères dimanche. Tous les voyageurs seront autorisés à entrer au Maroc s'ils ont été vaccinés contre la COVID-19 ou ont un résultat PCR négatif. Les étrangers originaires de pays où les cas de COVID-19 ont explosé ou qui disposent de peu de données valides doivent soumettre des permis spéciaux pour entrer au Maroc et avoir un résultat PCR négatif. Le mois dernier, le Maroc a assoupli une série de règles strictes sur la COVID-19 pour permettre aux cinémas et théâtres de reprendre leur activité pendant que les autorités continuent de mener des campagnes de vaccination. Le Maroc a fourni 5 millions de doses de vaccin COVID-19 AstraZeneca et de Sinopharm et les autorités travaillent dur pour vacciner tous les citoyens de plus de 17 ans. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère mongol de la Santé a signalé dimanche 4 décès dus à COVID-19, dont une fillette de 8 ans, le premier enfant du pays, à mourir du coronavirus. L'épidémie de COVID-19 a jusqu'à présent fait 325 morts en Mongolie depuis que le premier cas a été signalé en mars de l'année dernière. Sur la base des données du ministère, le nombre total de cas de COVID-19 est de 65 266, dont 1 288 nouveaux cas. Pendant ce temps, le nombre de patients guéris a atteint 53 780. Le taux quotidien de ces positifs de COVID-19 a considérablement augmenté, selon le ministère, tout en exhortant le public à respecter les protocoles sanitaires. La nation asiatique a lancé fin février un programme de vaccination contre la COVID-19, ciblant au moins 60% de ses 3,3 millions d'habitants. Sur la base des données du ministère, plus de 1 510 000 Mongols ont reçu le vaccin COVID-19 complet. Le ministre du Commerce, Mohamed Lutfi, a tenu une réunion bilatérale avec le vice-ministre chilien du Commerce, Rodrigo Alejandro Yanes Benitez, à Moscou, en Russie, pour accroître le commerce en optimisant la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Chili et en accélérant l'achèvement des négociations sur les services commerciaux. C'est ce qu'a déclaré le ministre indonésien du Commerce, Mohamed Lutfi, dans un communiqué officiel reçu à Jakarta lundi. L'accord de partenariat économique global Indonésie-Chili est mis en œuvre depuis le 10 août 2019. En 2020, l'Indonésie exportera un certain nombre de produits en utilisant SKA, l'accord de partenariat économique global Indonésie-Chili. L'Indonésie et le Chili ont convenu de mener des négociations sur le commerce des services dans un délai d'un an. L'équipe de négociation est en train de négocier pour poursuivre un objectif de règlement qui ont été convenus par les deux parties. Sur la base des données de l'Agence centrale de statistiques traitées par le ministère du Commerce, le commerce total entre l'Indonésie et le Chili en 2020 a été enregistré à 253,6 millions de dollars américains. Les exportations indonésiennes vers le Chili se sont élevées à 144,7 millions de dollars américains et les importations indonésiennes en provenance du Chili se sont élevées à 108,9 millions de dollars américains. Ainsi, la balance commerciale de l'Indonésie a un excédent de 35,8 millions de dollars américains par rapport au Chili. La certification de l'huile de palme durable indonésienne, ou ISPO, conforme aux objectifs du développement durable, a affirmé le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture a déclaré que les principes de la certification de l'huile de palme durable indonésienne sont conformes aux indicateurs qui sont les objectifs de développement durable. C'est ce qu'a déclaré le directeur de la transformation et de la commercialisation des produits des plantations du ministère de l'Agriculture, M. Dedi Junaidi, lors d'un webinaire sur l'avenir de l'huile de palme durable indonésienne, organisé par INDEF, cité par Antara à Jakarta lundi. Selon lui, les principes appliqués dans la certification de ISPO aux gestionnaires de plantations de palme à l'huile sont pertinents pour les indicateurs contenus dans les ODD et il a déclaré que cela pourrait être la force de l'Indonésie en augmentant l'existence de la certification de ISPO acceptée sur le marché international. En plus, l'huile de palme durable indonésienne ou ISPO qui a été récemment délivrée par le gouvernement indonésien, il existe actuellement un certain nombre de certifications d'huile de palme durable, à savoir table ronde sur l'huile de palme durable, gérée par l'Association mondiale sur l'huile de palme durable de la certification de la Malaisie, à savoir l'huile de palme durable de la Malaisie. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
We'll be right back. Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre La commémoration de la journée mondiale des océans au milieu de la pandémie de COVID-19. Chaque 8 juin, le monde commémore la journée mondiale de l'océan. Cette commémoration vise à sensibiliser l'importance de la durabilité marine pour l'homme en se rappelant que 70% de la planète Terre est constituée d'océans. Il est important de conserver et de protéger la vie marine. En outre, les océans produisent également au moins 50% de l'oxygène pour les humains, comme le rapporte le Service national des océans. La commémoration de la Journée mondiale des océans est pertinente à la condition de l'Indonésie, qui est considérée comme un pays maritime, dont les eaux s'étendent sur plus de 5 millions de kilomètres carrés au total. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a noté que la superficie des eaux indonésiennes est d'environ 3,25 millions de kilomètres carrés et que la zone économique exclusive ZEE est de 2,55 millions de kilomètres carrés. L'étendue des océans indonésiens dépasse la superficie des terres, à savoir 2,01 millions de kilomètres carrés. Le thème de la Journée mondiale des océans de cette année est L'océan, vie et moyens de subsistance. Ce thème était soulevé pour faire campagne pour l'importance des écosystèmes marins et le rôle de l'homme. Depuis l'année dernière, la Journée mondiale des océans est observée au milieu des préoccupations mondiales dues à la pandémie de COVID-19. Bien que la mer soit loin de la transmission du coronavirus, l'impact de la pandémie se fait aussi sentir par la mer à travers le monde. La pandémie de COVID-19 ajoute un nouvel élément à la pollution marine, à savoir le gaspillage des équipements de protection individuelle et pays, des rapports paris de diverses parties du monde, des masques, des gants médicaux, des combinaisons de protection contre les matières dangereuses, des écrans faciaux et même des imperméables auraient été éparpillés dans l'océan. Les masques qui ont permis de sauver des vies humaines pendant la pandémie de COVID-19 s'avèrent être une menace mortelle pour la faune. Il y a des rapports de masques trouvés dans l'estomac de pingouins, de crabes morts enveloppés dans des masques, de photos singes mâchant des ficelles de masques qui circulent et bien d'autres. Le groupe environnemental Océan-Asia a même rapporté que plus de 1,5 milliard de masques sont entrés dans les océans du monde l'année dernière. La pandémie a des impacts non seulement sur la vie humaine sur Terre, mais aussi sur les êtres vivants dans l'océan. Outre les administrateurs environnementaux, chaque individu doit être responsable de prendre soin de l'environnement. Les Indonésiens sont responsables de la durabilité de leur vie marine. Les décisions communautaires doivent être des modèles dans la réduction des déchets médicaux. Éviter les masques à usage unique et porter des masques en tissu lavable sont de petits exemples pour préserver l'environnement. Les déchets médicaux peuvent devenir une bombe à retardement qui peut détruire les écosystèmes marins s'ils ne sont pas traités maintenant. La catastrophe qui pourrait survenir sera probablement plus grande que la pandémie elle-même. Chers auditeurs, c'est le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كو جو يفانغ شي سين سين غوانغ جوان بين دو فاي يان د تشوان بو وي د كو جو باو هو ني ني د كو جو باو هو وو
ايفيتي لا ديفوزيون ديل كوروناويروس كورتار لا كادينا د ترانسميسيون usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 juin 1921, l'anniversaire de Soeharto, le deuxième président de l'Indonésie. Soeharto est né au Amokomusuk, le village Argomulyo, Bantul, Yogyakarta, le 8 juin 1921. Il a été le deuxième président de l'Indonésie de 1967 à 1998, succédant à Soekarno. Dans le monde international, en particulier dans le monde occidental, Soeharto est souvent appelé le général souriant en raison de son visage souriant. Après 32 ans au pouvoir, Soeharto a été contraint de démissionner. Il a été remplacé par son adjoint B.J. Habibie. Soeharto est décédé le 27 janvier 2008. L'autre information est sur l'assassin de Luther King Jr. est arrêté le 8 juin 1968. Le 8 juin 1968, la police britannique a arrêté un homme des États-Unis, James Earl Ray. Ray a été reconnu coupable par le tribunal en tant qu'auteur du meurtre du leader du mouvement des droits civiques des Noirs américains, Martin Luther King Jr. King a été abattu le 4 avril 1967 lorsqu'il se tenait sur le balcon d'un hôtel à Memphis et est décédé à l'hôpital. Il a été découvert que Ray avait loué une chambre de motel à Memphis qui était proche de l'hôtel où King séjournait. Ray s'enfuit à Londres. Il a été arrêté à l'aéroport international d'Etrou lorsqu'il se rendait à Bruxelles en Belgique. Après avoir été extradé vers les États-Unis, Ray a été condamné à 99 ans de prison pour le meurtre de Martin Luther King Jr. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 juin 1992. La Journée mondiale des océans est proposée pour la première fois. Le Centre international pour le développement des océans du Canada et l'Institut océanique du Canada ont proposé pour la première fois la Journée mondiale des océans lors du Sommet de la Terre, conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro au Brésil le 8 juin 1992. La Journée mondiale des océans a été officiellement reconnue par les Nations Unies en 2008. La commémoration soutient la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans le monde et encourage l'intérêt du public pour la protection des océans et la gestion durable de leurs ressources. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Stop. Semuanya suka dan terus tertawa, berpesta tak lelah pada saat
semua suka-suka pesta di lantai dansa.
Semua suka-suka
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix d'Indonésie et bientôt je vais vous présenter l'émission de Mon Indonésie, intitulée « Encourager la diplomatie économique indonésienne », cette entreprise de Hong Kong reçoive les prix du consulat. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, cet importateur et distributeur, établissement et restaurant de Hong Kong ont reçu de Consulate World 2020 qui se tiendra le vendredi 4 juin 2021 à Hong Kong. Les Consulate World 2020 sont décernés pour la contribution de ces entreprises et agences à l'augmentation de la promotion de l'économie et du commerce de l'Indonésie et de Hong Kong. Comme cité sur la page kemlo.go.id, 6 juin, The Consulate Award 2020 a été décerné après avoir passé en revue une évaluation et une sélection de dizaines d'entreprises qui importent ou distribuent des produits et des restaurants indonésiens, dont certains sont de la diaspora indonésienne à Hong Kong. Le consul général de la République d'Indonésie à Hong Kong, Ricky Soendar, a déclaré que les prix du consulat 2020 sont une forme de reconnaissance et d'appréciation pour les entrepreneurs, les entreprises, les agences et les petites et moyennes entreprises PME de Hong Kong pour les contributions au développement des entreprises de production indonésienne. Ricky a déclaré que la vision, l'innovation ainsi que les efforts des entreprises et des agences pour atteindre l'excellence dans la gestion d'une entreprise contribue finalement à renforcer le partenariat économique et commercial entre l'Indonésie et Hong Kong. En outre, a expliqué Ricky Soendar, le consulat général de la République d'Indonésie à Hong Kong, en collaboration avec les parties prenantes locales, continue de s'efforcer d'encourager l'exportation des produits indonésiens à l'étranger, en particulier à Hong Kong. Selon Ricky, ce prix devrait être une motivation et continuer à stimuler les gens d'affaires qui, grâce à la persévérance et au travail acharné, peuvent encore réussir. Les 7 prix du consulat 2020 ont été décernés à Qixing Golden Coconut Trading Ltd. en tant que distributeur de l'année de la diaspora indonésienne, Forever Health Co. Ltd. en tant que petite et moyenne entreprise de la diaspora indonésienne de l'année, Foking HK Trading Ltd. en tant que détaillant de la diaspora indonésienne de l'année, 16 Import-Export Ltd. en tant que promoteur indonésien de l'année, Potato Head Hong Kong comme meilleur restaurant indonésien, Kampung en tant que restaurant indonésien avec un excellent service de l'année, et la Chambre de commerce indonésienne Inacham Hong Kong en tant que partenaire éminent de l'année en Indonésie. À la même occasion, le consulat général d'Indonésie à Hong Kong a également décerné un prix à la Banque Negara Indonesia BNI Hong Kong pour son soutien au MPME et ses efforts de renforcement des capacités de la communauté des citoyens indonésiens à Hong Kong qui ont contribué positivement au développement de la climat des MPME en Indonésie. Bonjour, Jiritar, c'est tout. L'émission Mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Coba dengarkan, oh Dewiku, agar kau baca hatiku kembali.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel intitulé « La tribu Bauzi en Papouasie ». La tribu Bauzi est l'une des 260 tribus indigènes qui habitent maintenant en Papouasie. L'Agence centrale des statistiques de Papouasie inclut cette tribu dans une liste de 20 tribus isolées qui ont été identifiées. Le peuple Bauzi vit dans des forêts isolées ou dans des villages le long des rives de la rivière Mambramo et du lac Bira, la région de Mambramo Raya, Papouasie. Ils sont doués pour chasser les poissons tilapia, mesurant jusqu'à 20 cm de large. Ce poisson est aussi appelé le tilapia planche. Habituellement, les Bauzi transforment le tilapia en poisson salé et le vendent à Jayapura. Plus d'être doué pour la chasse au tilapia, la tribu Bauzi est également célébrée en tant que tribu de chasseurs de crocodiles et de serpents. Pour eux, la viande de crocodile et de serpent est la meilleure nourriture au monde. La viande de crocodile et de serpent est généralement cuite en rôtissant sur une cheminée, puis mangée avec du sagu, des bananes grillées ou des fruits à pain. Traditionnellement, lors de la chasse aux crocodiles, les hommes Bauzi tricotaient et tissaient des cordes fabriquées à partir des fibres d'arbres melinjo qui est célébré pour être fortes. Et ils se sont ensuite rendus en bateau jusqu'à la partie de la rivière que l'on pense être un nid de crocodile. Cela se fait généralement à midi. Les hommes Bauzi vont nager à la surface de la rivière. Tout en portant des cordes, ils chercheront l'ombre d'un crocodile au fond de la rivière. S'il voit un crocodile, il nagera vers la tête du crocodile pour voir si ses yeux sont ouverts ou fermés. Si les yeux du crocodile sont ouverts, il reculera rapidement, ce qui signifie que c'est dangereux. Mais si les yeux du crocodile sont fermés, le plus rapidement possible, il enroulera une ficelle autour du museau du crocodile et une autre ficelle autour des pattes avant du crocodile. Ensuite, les extrémités des cordes ont été remises à d'autres chasseurs qui attendaient au bord de la rivière. Ensemble, ils tireront le crocodile à terre et le tueront. La tribu Bauzi connaît la méthode de communication téléphonique de la forêt. C'est une méthode d'envoi de messages sur la longue distance sans avoir besoin de câbles optiques, de tours de transmission et d'électricité. Le chercheur de centre d'archéologie de Papouasie, M. Hari Suroto, a expliqué que cette méthode était un terme pour décrire un message en scène qui provient d'une personne et ensuite transmis à une autre personne. L'astuce consiste à crier très fort. La maison ou la cabane de la tribu Bozi se trouve dans la forêt. Un groupe avec d'autres groupes vivent dispersés ou loin les uns des autres. Pour cette raison, les téléphones forestiers sont devenus un moyen de communication efficace pour transmettre des messages à des personnes éloignées. L'avantage des téléphones forestiers est que lorsque quelqu'un crie à un certain niveau de voix, sa voix se répercutera et résonnera dans la vallée ou la rive jusqu'à en amont de la rivière, de sorte qu'il soit facilement entendu par les autres membres de la tribu. Généralement, les Bozi utilisent des téléphones forestiers lorsqu'ils recherchent des amis ou des membres de la famille qui sachent dans la forêt. Ils utilisent également le téléphone de la forêt pour donner des nouvelles s'il y a des familles qui sont décédées. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Kemarin ku galau, bila hanya memang menyiksa-nyiksa.
Charge Litard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey, le sujet d'aujourd'hui est Boleh minum jamu, Boleh minum jamu en français, puis-je prendre du jamu ou médicament à base de plantes. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Boleh minum jamu. Boleh minum jamu en français, puis-je prendre du jamu, médicament à base de plantes? Cette conversation se déroule entre Kevin et le médecin de la clinique. Kevin veut savoir s'il est permis ou pas de prendre du jamu ou médicament à base de plantes. Bonne écoute.
Boleh minum jamu?
Boleh, tapi jangan diminum bersamaan dengan obat.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Boleh minum jamu, boleh minum jamu. En français, puis-je prendre du jamu ou médicament à base de plantes? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Boleh, boleh, puis. Minum, minum, boire. Jamu, jamu, médicament à base de plantes. Boleh minum jamu, boleh minum jamu, en français. Puis-je prendre des médicaments à base de plantes? Bapak boleh minum jamu, bapak boleh minum jamu. En français, vous pouvez prendre des médicaments à base de plantes, monsieur. Boleh makan gorengan. En français, puis-je manger des gâteaux frits? Tidak boleh. Tidak boleh. En français, vous n'êtes pas permis. Setelah pulih. Setelah pulih. Après le rétablissement. Chers auditeurs, dans la conversation, vous avez entendu la question boleh minum jamu? Boleh minum jamu. En français, puis-je prendre des médicaments à base de plantes? Dans cette conversation, il y a le mot boleh, boleh, en français puis. Le mot boleh, boleh, puis, comme dans le contexte de la conversation entre Kevin et le docteur, est utilisé pour demander ou donner la permission de faire quelque chose. Par exemple, boleh minum jamu, en français, peux-je prendre des médicaments à base de plantes? Pour demander la permission et vous pouvez prendre des médicaments à base de plantes. C'est pour donner la permission. Si vous ne permettez pas à quelqu'un de faire quelque chose, vous pouvez dire non. Ou tidak boleh. Tidak boleh. Non. Chers amis, maintenant écoutons un autre exemple d'utilisation du mot boleh. Boleh. Puis. Pour demander et donner la permission. Bolehkah saya makan gorengan? Bolehkah saya makan gorengan? En français, puis-je manger des gâteaux frits? Tidak boleh pak. Tidak boleh pak. En français, non, monsieur. Anda boleh makan gorengan setelah pulih. Anda boleh makan gorengan setelah pulih. En français, vous pouvez manger des aliments frits après votre rétablissement. Ah, baik. Baik. Bien d'accord. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Boleh minum jamu?
Boleh, tapi jangan diminum bersamaan dengan obat.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Embun meniti, embun meniti di malam hari. Air jatuh menimpa, jatuh menimpa daun keladi. Embun meniti. Jatuh menimpa daun keladi, air mataku, air mataku jatuh meniti, air terkenang kasih. Terkenang kasih di mana kini, air mataku, air mataku jatuh meniti, air terkenang kasih. Terkenang kasih di mana kini. Jatuh menimpa kembang belati, embun meniti, embun meniti menjelang pagi. Air jatuh menimpa, jatuh menimpa kembang.
kasih tak acuh lagi. Air mataku.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.